Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 8 à 12. Actes, chapitre 4, versets 8 à 12, au nom de Jésus. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien, puisqu'on nous interroge aujourd'hui à propos du bien à un infirme, et qu'on nous demande comment cet homme a été guéri, il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. Jésus est celui dont l'Écriture affirme la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejeté, est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Amen. Nous sommes en 2018. Cela fait au moins 2000 ans que le Christ a été jugé et condamné par les anciens d'Israël, les prêtres, les commandants du temple, les sadducéens et les pharisiens. Ce n'est pas Pilate qui a crucifié Jésus, ce sont les chefs de ces communautés. Il fallait faire taire ce Jésus car il dérange. Il dérange l'opinion publique. Malgré les œuvres du Christ qu'ils ont vues, de leurs propres yeux, ils ont vu Lazare ressuscité. Ils ont vu les aveugles qui ont retrouvé la vue. Mais leur cœur était endurci comme une pierre. Malgré ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas cru. Et écoutons ce que Jésus avait dit justement à ce propos. « Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de mes œuvres elles-mêmes. » Oui, mais jusqu'à nos jours, le monde veut encore faire un procès contre Jésus en 2018. Et juste une information en passant que je vous donne. Normalement, hier, on aurait dû aller à Forêt Nationale pour voir le concert comédie musicale de Pascal Obispo sur Jésus, mais ça a été annulé parce qu'on a reçu une menace. Donc même jusqu'à aujourd'hui, Jésus dérange encore. Menace de mort envers Pascal Obispo s'il fait le concert. Vous voyez, on est en 2018 et le procès de Jésus n'est pas encore terminé. L'histoire de la résurrection de Jésus gêne ses détracteurs jusqu'aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans notre texte de ce matin. Les Sadducéens ainsi que les prêtres, ils ont fait un procès contre Pierre et Jean à cause de l'acte de guérison qu'ils ont fait pour cet infirme qui était devant le temple. Ils n'avaient même pas la pitié pour cet infirme. Mais à cause de la haine qu'ils avaient contre le Christ, ils ne voyaient plus la souffrance des autres. Et si vous lisez bien le texte, nous pouvons constater que les anciens d'Israël font un faux procès. À vrai dire, ce n'est pas la guérison en elle-même qui les dérange, mais c'est surtout le fait d'entendre que cela a été réalisé et rendu possible grâce à ce Jésus de Nazareth, c'était bien écrit, qui soi-disant prétendu comme étant ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça qui alimente la haine des pharisiens. D'où c'est le faux procès. Pour ma part, je vois ça comme un acharnement contre la personne de Jésus. On s'acharne sur le Christ. Et comme je l'ai dit au tout début de ma méditation, c'est une haine envers le Christ. Et ce qui est encore étonnant dans ce texte, On sent bien l'accent voulu par l'auteur que ce qui dérange, c'est ce Jésus ressuscité. Alors, à travers ce procès qu'ils ont fait à Pierre et Jean, ils profitent de l'occasion pour continuer le procès inachevé devant Pilate et Hérode. Comme si le procès n'est pas encore satisfaisant pour la partie civile. Le procès ici, selon moi, semble avoir un aspect plus profond. On refait le procès de Jésus, ou on continue le procès à travers ses disciples. Chers frères et sœurs en Christ, ne nous trompons pas. Même si le christianisme aujourd'hui est plus que jamais répandu dans le monde entier, même malgré les zones où il y a encore des endroits qu'on ne peut même pas importer des Bibles, par exemple en Corée du Nord, si jamais vous voyagez là-bas, que vous avez une Bible dans vos valises, vous aurez une sanction jusqu'à la troisième génération. Et ce qui se passe dans le monde n'a pas changé. Dans les pays où l'évangile est interdite, c'est la persécution au premier degré, ça c'est clair. Par contre, dans nos pays où les églises sont libres, je mets entre guillemets, le procès contre Jésus continue toujours, mais cette fois-ci de façon plus subtile. Et je pense que c'est le plus dangereux, car on n'attaque pas frontalement, mais on attaque les idées. On change de stratégie, on attaque plus directement les disciples du Christ, mais on détruit leur idéologie, on détruit leur foi. Et je vous assure, cela fait encore plus de dégâts. Comme ce qui a été dit dans Zacharie chapitre 13, verset 7, « Frappe les bergers, que les bêtes se dispersent, et je tournerai ma main vers les petits. » Vous savez où maintenant le diable attaque pour détruire, pour attaquer le christianisme? Dans les facultés de théologie, là où on forme les futurs pasteurs. Là, c'est la source. Et donc, par la suite, l'enseignement que l'Église va recevoir en découle. Et c'est la tactique qui est utilisée. C'est la tactique des anciens d'Israël, que si nous faisons taire ce Jésus, alors ils vont tous s'éparpiller et le mouvement disparaîtra. C'est le but, c'est le plan machiavélique du mal. Or, étonnamment, c'est là que se trouve la force de l'esprit. Ils sont face à un constat d'échec. Ils ont essayé de tuer Jésus pour régler les choses. Que même s'ils ne voient plus le Christ en chair et en os, ils continuent à œuvrer. Et le pire, c'est comme si ce Jésus se multiplie à travers ses disciples. On ne pouvait plus le limiter. Il suffisait de prononcer le nom de Jésus comme Pierre et Jean l'avaient fait, et le Christ se révèle. Et le Christ continue à refaire ce qu'il avait déjà fait auparavant, jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus avait même promis à ses disciples avant de revenir auprès de son Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi, lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Jean chapitre 14, verset 12. On peut bien voir à travers ce texte de ce matin que nous ne faisons pas simplement l'œuvre de Jésus, parce que c'est son ordre, non. Nous sommes le prolongement de l'œuvre de Jésus. Comme il est dit dans Luc chapitre 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous, dimanche passé, nous avons parlé que Jésus nous représentait auprès du Père. Et la continuité du lectionnaire aujourd'hui, c'est à notre tour de représenter le Christ ici-bas sur terre. Lui, il nous représente devant le Père, et c'est à nous de représenter le Christ ici-bas. La question qui se pose, est-ce que nous le représentons bien? Avons-nous peur ou avons-nous honte de le représenter ici-bas? Or, lui, à la droite du Père, il fait son boulot. Il supplie le Père pour nous. Et c'est cela l'union parfaite que nous avons avec le Christ. En Christ, nous sommes déjà là-haut. Et le Christ en nous est encore ici-bas parmi nous. Jésus avait fait cette promesse à ses disciples qui sera toujours avec eux, pas simplement en esprit, mais vraiment présent avec eux. Quand il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. Il est vrai que le Seigneur est omniprésent, mais concrètement, il a promis à ses disciples qu'à chaque fois qu'ils se réunissent et invoquent son nom, il est là au milieu de nous. À chaque fois. C'est par son nom prononcé que Jean et Pierre ont pu guérir cet infirme. Dès qu'il a dit au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, c'est ce nom-là qui l'a mis debout. Au verset 12, il dit que sous le soleil, il n'y a aucun nom donné parmi les humains par lequel nous devrions être sauvés. Cela implique, quand on prononce le nom de Jésus, il se manifeste. Il est là, il est présent et il ne faut pas avoir un doute là-dessus. Nous pouvons comprendre maintenant le sens et le pourquoi du deuxième commandement du décalogue. Tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu pour tromper. Parce qu'à chaque fois que tu appelles ton Dieu, il se manifeste. Il est présent. Savez-vous, dans certaines traditions d'Église, le début du culte se fait toujours par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une formule. C'est pour dire que dès qu'on prononce ce nom, Dieu est là. Dieu est présent parmi eux. Ce n'est pas une formule magique abracadabrande, non. Ce n'est pas aussi juste une formule de politesse, une formule liturgique, ni une formule de majesté. Cela va plus loin que cela, comme le dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Le nom de Dieu n'est pas juste un nom qui le différencie des autres comme les autres noms, un nom qui agit. Rappelez-vous quand Moïse était face à lui, « Qui es-tu? Quel est ton nom ?» Et il a un nom assez bizarre, « Je suis ». C'est-à-dire qu'il est toujours en action. Il n'est pas passif. Dès qu'il est là, il agit. Quand Dieu est présent, il agit. Alors son nom, rappelons-le, ce « je suis » se révèle à nous tous les jours. Donc il ne fait que nous attendre. « Appelle-moi ! » Pourquoi on fait la prière même si Dieu est omniprésent ? Parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut être présent pour toi. Il est déjà présent dans le monde, mais il veut être présent pour toi. Il suffit de l'appeler. C'est pourquoi son nom est au-dessus de tout nom et que tout genou fléchira devant ce nom majestueux. Amen.